prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les rêves et les songes, deuxième partie.
Nous avons, en début d'année, abordé un sujet qui était relatif aux songes et aux rêves. Voilà. Vous n'avez pas rêvé, hein. Donc, on va reprendre cela. Alors, je précise que c'est une étude, hein. Ce n'est pas une parole exhortative seulement. Elle l'est. Mais c'est une étude, alors ça va nous demander un petit peu de réflexion, voire prendre en considération ce que nous enseigne la parole sur le sujet. Beaucoup de gens, de chrétiens, sont parfois venus me voir et m'ont dit, mais voilà, j'ai pensé, j'ai rêvé, j'ai songé, qu'est-ce que cela veut dire? Alors la première fois, nous avions abordé, et nous allons continuer un petit peu sur cette lancée-là, ce qui était toute l'imagination de l'homme. Et puis nous allons aujourd'hui commencer, parce qu'il y aura trois volets, parler de ce que sont les rêves et les songes authentiquement venant de Dieu. Alors c'est bien, il faut faire la différence. Alors, premier texte, on va reprendre ce que nous avions lu précédemment. C'est simplement une mémoire. Rappeler simplement quelques passages. Jérémie, chapitre 23. Alors, Jérémie, chapitre 23, versets 25 à 32. C'est Dieu qui dit cela. « J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusque à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Première lecture, la deuxième lecture dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, on revient un peu sur nos pas. C'était les deux textes précédents que nous avions médités. Alors, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Et puis le verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse déjà dans cette approche. Et peut-être en redisant certaines choses que nous avions vues précédemment, je reprends. Le rêve, paraît-il, est une soupape de sécurité indispensable pour l'équilibre psychologique, psychique de l'homme. C'est quand même quelque chose d'assez mystérieux, le rêve, il faut bien le reconnaître. En voici les raisons, et nous avons besoin de nous souvenir de la constitution morale, mentale de l'homme. Et on avait abordé la dernière fois le rôle de la mémoire. Le rôle de la mémoire. La mémoire nous permet de conserver le souvenir du passé. Alors c'est inscrit. Il y en a qui perdent la mémoire. Mais elle est quand même assez résistante parce que c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Il arrive que l'imagination, suivez bien, je ne vais pas faire de la psychologie, mais on va revenir à la parole. Il arrive que l'imagination et la mémoire s'allient. Ce qui peut se comprendre. Pour fabriquer du rêve. Il y a notre passé, il y a notre présent, notre vécu au présent, et puis il y a tout ce que nous pouvons anticiper pour l'avenir. Si l'horloge interne est déréglée, c'est-à-dire notre vie intérieure, ce que nous pourrions raisonnablement évacuer le jour, ce qui devrait disparaître avec toutes nos activités diurnes, tout simplement le jour, ressort à ce moment-là en force la nuit à notre insu. Et à ce moment-là s'entremêlent le sentiment, les sensations, les convoitises, les frustrations, les déceptions, les craintes, les peurs, les angoisses, les amertumes, les rancœurs, les blessures, les traumatismes, qu'ils aient été oubliés ou qu'ils aient été tout simplement inhibés, alors à ce moment-là, c'est tout un univers de désordre qui est en train de se mettre en place et qui va servir de matériau sorti ou tiré de la mémoire et alimenté par une imagination débridée qui donne des histoires, excusez-moi, mais je dois le dire, sans queue ni tête. Il y a des choses dont nous avons peut-être rêvé, on se dit le lendemain matin, on se dit, mais où j'ai été chercher ça? Alors tant que vous les gardez pour vous, c'est pas un problème, mais quand vous les racontez aux autres, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? Des histoires sans queue ni tête, un véritable méli-mélo à ne rien y comprendre, on pourrait dire certainement peut-être même à la limite un bric-à-brac, dont il faut avoir la sagesse, et quand on est chrétien, on doit avoir certainement de la sagesse. Et vous savez ce que nous dit Jean, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée, sans reproche, et simplement. Alors, c'est à notre adresse tout ça. Alors, à ce moment-là, on s'aperçoit que nous devons avoir la sagesse de croire que ce n'est que du rêve, et que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Quelquefois, on a vu des chrétiens s'emporter, exalter, partis dans je ne sais quel monde, en disant, mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Puis alors, ils sont tellement imprégnés que pour leur dire, c'est tout simplement, tout cela. Vous avez remarqué, on a vu que les rêves naissent de la multitude des préoccupations. Donc, mettons les choses à leur place. Et ne nous prenons pas spirituels alors que ça ne fait partie que d'un fonctionnement psychique ou psychologique, tout simplement. Ça, c'est le côté de ce qu'il faut faire attention, vous comprenez, on parlera après du véritable rêve et du véritable son. Mais comme Jésus l'a enseigné, il a souvent enseigné par contraste, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est lumière, ce qui est ténèbres. C'est comme ça que Jésus enseigne. C'est pourquoi, à la faveur du stress, et nous savons que nous sommes dans un monde de stressant, ça, on en convient, à la faveur de l'abattement de nos vies, de la maladie, peut-être parfois de la fièvre, qui fait délirer, le surmenage, nous savons que souvent, sans raison et inconsciemment, que nos rêves surgissent. Et quelquefois, c'est assez troublant tout cela. Notre tempérament propre, nos croyances, parce que nous avons des croyances, nous avons la foi, mais nous avons aussi des croyances. Nos humeurs, ils sont toujours pour quelque chose. Et je rappelle ce que nous avons lu, les rêves naissent de la multitude des préoccupations. Ça, c'est un aspect des choses. On reste bien là-dessus. En d'autres termes, un psychisme encombré qui se libère, et voilà tout. Et Dieu l'a permis dans la Constitution et dans notre vie, tout simplement. Il faut que tout cela, s'évacue. Dans le cas des croyants que nous sommes, ceux qui ont tendance à l'excès ou au mysticisme, je dis bien, le mysticisme, les mal guéris de la vie, même s'ils sont convertis, les impatiences spirituelles. Ah oui, Seigneur, il faut absolument que tu me donnes un songe ou un rêve parce que moi je voudrais comprendre quelque chose. Moi je vous dirais que vous avez la parole. De toute façon, c'est toujours à la parole. les impatients spirituels sont les plus vulnérables à prendre leurs rêves pour des réalités. Et ça, il faut faire attention. Je crois que le grand enseignement que nous donne l'Évangile et Jésus-Christ, c'est un christianisme équilibré. On voit tant de choses aujourd'hui dans notre monde. On voit tant de choses dans les religions. Dans un sens comme dans un autre. Et vous savez, quand ça va dans un extrême, il y a la contrepartie dans l'autre. Et c'est terrible. Les antagonismes. Et c'est terrible. Donc, faut faire attention de ne pas prendre nos rêves pour la réalité. Et surtout, les interpréter comme venant du ciel et ensuite comme infaillibles. On a quelques voix vues, des interventions, en disant « Dieu m'a parlé, c'est comme ça, ça ne sera pas autrement ». Et comme les fêtes, après, prouvent toujours, on s'aperçoit que celui qui a rêvé est complètement par terre et celui qui a cru au rêve de l'autre, il est par terre aussi. Méfions-nous, on en reparlera tout à l'heure. Tantôt, leur imagination nocturne est hantée, pas hantée, mais peuplée d'anges, parfois de démons, hein, on l'a vu, il faut en parler, hein. Ça c'est vrai. Alors quand ce sont des anges, c'est céleste, quand c'est des démons, c'est céleste aussi, mais c'est des cauchemars à ce moment-là. Tantôt, il s'agit tout simplement d'un secret que Dieu fait à cette personne qui croit que le rêve eh bien, est ainsi, et ils pensent qu'ils sont des médiateurs entre Dieu et les hommes, entre Dieu et leurs frères, et ils imaginent que Dieu leur a révélé un secret à eux seuls, et des révélations qui concernent d'autres personnes. Ça m'est arrivé, hein, quelquefois, dans le vrai et dans le faux, d'avoir des gens qui disent, « Eh bien, moi, j'ai rêvé de vous, enfin, j'ai rêvé de ceci et cela, ça peut arriver. » Et de dire, eh bien, Dieu m'a fait ceci et cela, il m'a dit ceci et cela pour vous. Alors moi, j'ai toujours répondu aux gens, si Dieu vous a donné quelque chose, moi je veux bien, hein, mais il faut d'abord qu'il me parle à moi. C'est du bon sens. Parce que là, on peut manipuler, on tombe dans la manipulation, on tombe dans l'exploitation. Et vous savez, la manipulation, c'est quoi la caractéristique? C'est la secte. Et l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une secte. Ce sont des gens qui ont appris à raisonner, des gens qui ont pris, qui connaissent bien la parole, des gens qui sont sensibles à la pensée de l'esprit. Alors, j'ai dit que c'était une étude, hein, ce matin. Alors, on voit que, faut faire attention, ou des gens qui disent, moi j'ai rêvé, je suis investi d'une mission spéciale. Dieu m'a dit que je suis prophète, ou je suis apôtre, ou je suis ceci et cela. Non, non, mais on en a vu toutes les couleurs, et on en a vu toutes les sortes. C'est pour ça qu'il faut informer l'Église, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. On n'est pas d'accord, parce que le Seigneur revient bientôt. Hein. Et il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, et si j'en prends tout simplement acte dans le livre de Paul aux Thessaloniciens, il nous est dit qu'il y aura des miracles, des révélations, toutes sortes de choses. Et l'Église aujourd'hui a besoin d'être construite. Elle a besoin d'avoir des assises, elle a besoin d'avoir au moins un fondement solide. Et le fondement solide, c'est Jésus-Christ et sa parole, et c'est pas des extrapolations et des spéculations. Parce que là, je crois qu'il va y avoir beaucoup de chrétiens qui vont disparaître de la circulation. Hein. Si on prête l'oreille, et si on fait crédit de tout, parce que le monde est en train de devenir un petit peu, là, après avoir eu un 20e siècle de matérialisme et de rejet, finalement, de toute cette dimension, on sent que les gens reviennent vers le spirituel, vers un syncrétisme, et il va y avoir un mélange de tout. De vérité, d'erreur, de lumière, d'obscurantisme, d'occultisme, toutes sortes de choses. Alors faisons bien attention. Et moi, mon rôle, c'est de prévenir, par l'enseignement, eh bien, les chrétiens de dire attention. Faites attention parce que ça peut ressembler, mais ce n'est pas ça. Vous savez que l'apôtre Paul nous informe dans 2 Corinthiens chapitre 11, si ma mémoire est fidèle, il dit, mais Satan se déguise en ange de lumière. Et pour attraper les gens de l'extérieur, c'est pas difficile pour lui parce qu'il les a dans sa poche. Mais pour attraper les chrétiens, il va pas venir avec ses gros sabots, hein. Il va venir avec la subtilité, comme un jour il est venu dans le jardin de désert, la tentation du désert. Et vous savez de quoi il s'est servi pour séduire et confondre Jésus? Il s'est servi de la parole de Dieu même. Faisons attention. Que Dieu appelle, que Dieu révèle, c'est possible. Et merci Seigneur pour les dons spirituels, nous sommes des enfants de la Pentecôte. Et nous croyons au charisme de Dieu. C'est vrai. Mais Dieu ne nous parle pas que la nuit. Parce que si je suis focalisé uniquement en disant Seigneur, je m'endors et tu me parles. n'est-ce pas comme nous l'avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas mêler la paille avec le froment? Le froment, c'est ce qu'il y a de meilleur, la paille, c'est, ce n'est rien du tout. Et là, c'est le mélange. Au sein d'Israël, et nous avons des histoires, le songe était devenu une compétition qui fallait absolument réfréner au risque d'anéantir la véritable révélation. Ézéchiel, Jérémie que nous avons lu tout à l'heure. Vous avez vu ? Ils prennent ma parole pour leur parole, ils prennent leur parole pour ma parole. Et j'en veux à tous ceux qui racontent des mensonges. Pour eux, c'est la vérité. Mais pour Dieu, c'est du mensonge, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors je relis, hein. J'en veux à ceux qui dérobent mes paroles, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole, ceux qui prophétisent de faux songes et les racontent et qui, eh bien, égarent mon peuple. Et Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas envoyés. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Nous en viendrons d'ici quelques instants, ultérieurement, un enseignement sur le rêve venant authentiquement de Dieu. Toutefois, il est nécessaire d'établir un cadre qui définit ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus terrible dans une communauté, dans une église, que de mélanger, d'intervertir entre le psychisme et le spirituel. Et nous sommes dans des temps où les gens sont psychiques, sont pleins d'émotions, et toute notre vie est faite comme ça. L'exploitation commerciale, l'exploitation politique, et tout ce que vous voudrez, elle est faite de sensibilité et d'émotionnel. Alors on fait marcher les gens avec ça. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une raison plus haute, plus grande, une raison plus spirituelle, finalement, chez les chrétiens. Hélas, on peut être convaincu et se trouver... Si nous ignorons la parole de Dieu et que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, il faut pour cela que nous connaissions bien la parole de Dieu, que nous nous connaissions nous-mêmes. Et c'est la parole de Dieu qui va nous faire connaître ce que nous sommes. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jacques qui dit cela. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, il faut faire attention, mes frères et sœurs, je le rappelle, hein, vous êtes libres, hein, moi je suis pas là derrière vous. Mais il y a des ouvrages, il y a des livres, il y a toutes sortes de choses, qui derrière des titres pompeux, ronflants, vous présentent de la spiritualité qui n'en est pas, la spiritualité, qui quelquefois sont teintées de fausses doctrines, des altérations, des déformations de la parole de Dieu. Moi, je suis tout à fait encourageant pour que des chrétiens se nourrissent avec de bons commentaires bibliques. Mais des auteurs qui se disent inspirés, des choses comme ça, c'est comme ça qu'il y a toutes sortes de diffusions de ce que l'on appelle aujourd'hui, mais ça existe déjà depuis une vingtaine d'années, le New Age. Et vous en avez entendu parler un petit peu ? Avec toutes sortes de techniques, toutes sortes de recettes, toutes sortes de choses qui passent par la visualisation. Je ne veux pas rentrer dans tous ces termes-là, hein, mais... Voilà, moi je vois, j'entends. Seigneur, tu me parles, il n'y a qu'à moi que tu parles, hein, finalement. Alors il faut faire attention. Celui qui se tient à l'égard, nous dit un texte des Proverbes, je crois, ne cherche que ce qui lui plaît. On a besoin des uns et des autres. On a besoin de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de nos frères et nos sœurs, qui quelquefois nous recadrent en disant là, il me semble que tu es sorti des rails. Mais c'est pas toujours facile à faire, parce que celui qui est convaincu en disant « mais Dieu m'a parlé », allez lui dire que c'est vous qui vous trompez. Pas évident, hein. Enfin bon, en tous les cas, ce qui est important, c'est de prévenir. Et de le faire avec fraternité, de le faire avec tact, de le faire avec douceur. Ça, c'est aussi la recommandation de la parole. Or, la parole de Dieu est très explicite, elle révèle sans détour les défauts de nos âmes, les faiblesses. Nos maux profonds, intérieurs, qui sont peut-être là le résultat de blessures qui n'ont jamais été guéries, de traumatismes, d'aspirations, toutes sortes de choses qui ont besoin d'être mises au clair, dont elle veut nous débarrasser, la parole veut nous débarrasser de ces choses. Si ce que nous avons évoqué du rêve psychique produit des tourments de la vie, parce qu'on se pose beaucoup de questions, combien j'ai vu de chrétiens tourmentés sur des choses, disant « mais je ne comprends pas ». Il importe que la raison, mais une raison sanctifiée. Il importe que la volonté, une raison reprise en sous-main par le Saint-Esprit. Que notre conscience l'emporte sur l'émotion. Ouais. Je le rappelle, nous vivons beaucoup avec des émotions. Et l'émotion n'est pas toujours juste. J'ai le pressentiment de. J'ai la sensation de. Oui, mais c'est très humain tout ça. Mais faisons attention que nous ne tombions pas dans le piège de l'arbitraire par rapport à nous-mêmes en étant convaincus qu'il y a nous qui avons la vérité. Parce qu'il y en a un qui va s'en servir. C'est bien d'avoir des certitudes. C'est bien d'avoir des convictions. C'est bien de pouvoir affirmer, mais Seigneur, voilà. Mais attention. Parce qu'autrement, on peut tomber dans l'entêtement. Et s'il y en a un qui exploite l'entêtement des hommes, c'est bien le diable. Parce que lui, il nous prépare véritablement un mur dans lequel on va se diriger. Et vous savez, si vous foncez dans un mur, vous allez sortir avec des bosses. Et des blessures. Si c'est pas d'autre. Alors je crois que tout ça, c'est à redire. L'intuition est de ne pas tout appeler spirituel ce qui ne l'est pas. C'est Jean qui nous dit ça dans son épître, chapitre 1er et verset 4, non, chapitre 4 et verset 1er, il dit ceci, bien-aimé, n'ajoutez pas foi, si je traduis, n'ajoutez pas confiance à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Nombre de chrétiens mal affermis dans leur foi s'imaginent être agressés, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, être la cible du diable, être victime de complots ou se sentir persécuté. Il m'en veut. Vous avez vu comment il m'a regardé? Il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Et ceci, et ça part après dans le rêve, etc., etc., et ça vous met une marmelade à l'intérieur, et puis vous partez en live. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui se tourmentent eux-mêmes. C'est dans l'esprit. Ils se tourmentent eux-mêmes pour la simple raison que leur peur, à commencer par la peur des autres, leur méfiance ou leur défiance, leurs soupçons, leur susceptibilité les dominent et les subjuguent. Et après, ils en rêvent. Quand ça ne tourne pas au cauchemar. Vous savez, on est appelé à s'aimer les uns les autres. Alors l'amour, ça fait pas cauchemarder. Enfin, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans ces cas-là, n'allons pas déclarer la guerre aux mauvais esprits, là où ils ne sont pas. Quand il s'agit tout simplement d'un problème qui intéresse notre propre transformation, tout simplement, ou des blessures intérieures qui n'ont pas été traitées. Le Seigneur veut nous guérir de nos maux intérieurs. Il veut nous guérir de notre passé. Il veut nous guérir de notre histoire. Nous avons parfois été piétinés, nous avons été éduqués, nous avons reçu parfois des enseignements, et puis des choses qui sont au fond de nous-mêmes, et quand on est petit, bien, ça aussi demeure après. Vous savez, la conversion et la nouvelle naissance, c'est vraiment une vraie conversion et une nouvelle naissance. Et on aura passé de tous les jours de notre vie pour que Dieu fasse son travail. C'est ça la sanctification. Un travail intérieur, un travail de remodelage où Dieu va nous recycler pour que nous pensions juste, que nous pensions bien et que nous restions véritablement dans des choses qui sont saintes et saines de ce qu'il nous adresse. En fait, finalement, tout cela, dans ces dérives, c'est que l'âme des hommes est malade. Ouais. L'âme malade et Dieu a donné la guérison. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pas ça? Il nous est dit que Dieu est venu pour les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs. Pour rendre la liberté à ceux qui sont là sous l'oppression. Il est venu apporter une année de grâce de la part du Seigneur. Mais moi, je dis que c'est un message merveilleux. Il y en a un qui voudrait nous faire gamberger dans toutes sortes de choses. Tout autre. Un psychisme perturbé, difficile à admettre, en disant, mais non, c'est pas vrai, c'est les autres, c'est pas moi. Nos rêves et nos cauchemars sont, que nous le voulions ou non, des indications fiables de nos états d'âme. Eh oui. Encore une fois, le dire. J'ai vu des gens venir me dire, bien Alain, j'ai fait ceci et cela, et on le sait d'ailleurs pertinemment, parce que ça ne tient pas. Et les gens, ils se sont rendus malades avec ça. Alors, on essaie de calmer le jeu, on essaie. Par contre, j'ai vu des gens qui ont dit, voilà, moi j'ai vu ceci, le Seigneur m'a montré cela, et là c'est authentique parce que c'était vérifiable par rapport à la parole de Dieu. Mais même avant que ça se, on va en reparler d'ici quelques temps, mais avant que ça se réalise, il faut rien dire, il faut attendre que Dieu fasse son œuvre. C'est pas peine de dire à tout le monde, j'ai fait un rêve, parce que vous attirez l'attention sur vous, alors que c'est pas ça le but. Hein. Le messager ne compte pas dans cette affaire. Ce qui est important, c'est le message. On est d'accord? Il ne faut pas voler à Dieu ce qui lui revient. Hein. Ça, c'est tout à fait logique. Hein. Pour autant que nous entretiendrons un état d'esprit qui se nourrit de défaitisme. Il y a quelquefois dans l'église du Seigneur des gens, des frères et des sœurs qui sont défaitistes. Ils voient tout noir. Il y a un état dépressif quelque part. Ah, ils croient en Jésus, ça c'est sûr, ils sont d'authentiques chrétiens, mais la manière, l'œil qui est en eux, vous savez comme Jésus nous dit, si ton œil est en mauvais état, tout le reste sera en mauvais état. Alors c'est vrai qu'il y a une façon de voir, il y a deux façons de voir, pardon. Il y a une façon de voir, raisonnable et raisonnée, de dire, mais Seigneur, tu es tout puissant et je me réjouis en toi, même si la situation est terrible, mais toi tu vas me délivrer, ou alors de dire, mais Seigneur, c'est catastrophique, alors qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien la foi à ce moment-là, c'est même pas la peine de l'avoir. Puisque on se rend malade. Alors, je crois qu'il faut faire attention, c'est que si nous avons un état d'esprit, nous avons besoin d'être guéris dans notre état d'esprit. Si nous avons un état d'esprit qui se nourrit de défaitisme, ou encore de rancune, de colère, de jalousie. Vous savez ce que c'est que la jalousie? C'est un cancer. Je crois que c'est une des choses les plus terribles quand ça existe dans un couple. Entre amis, entre frères et sœurs. C'est quelque chose de destructeur au possible, la jalousie. Alors si nous sommes avec cet état d'esprit jalousie, il faut dire, Seigneur, ben, je suis jaloux et puis délivre-moi, ou jalouse. Mais le Seigneur va le faire. Mais quelquefois nous disons, Seigneur, tu me délivres, mais on caresse quand même. Hein. On dit, Seigneur, je voudrais bien que tu me gardes ça quand même, un petit peu, un tout petit peu. Donc la jalousie, et que nous ruminons, oui, c'est un terme tout à fait particulier, hein, que nous ruminons ce poison, alors à ce moment-là, nous allons nous détruire. Notre vie intérieure, notre caractère ne va pas évoluer. Et nous allons caresser notre âme dans le bon sens, avec toutes sortes de fantasmes, toutes sortes de rêves, en pensant que finalement, eh bien, tout est beau, tout est bien, mais finalement, rien n'est fait. Et nous allons continuer à gamberger. Vous savez, il y a une des choses que le Seigneur nous apprend quand on se convertit, c'est qu'il faut arrêter de rêver. Connaissez, hein, faut pas rêver. Ouais, faut pas rêver. Un chrétien, c'est un réaliste. C'est un homme qui a les pieds sur terre. Il a le cœur au ciel, mais il a les pieds sur terre. C'est un réaliste. C'est pas un éthéré. Regardez, hein, les ailes ne sont pas prêtes de pousser pour l'instant. Hein. Enfin, encore faut-il qu'il y ait des ailes. Ça, c'est l'imagination encore. Hein. Alors voilà, des choses. Il faut faire attention. Il y a à ce moment-là, si nous cultivons ces choses et les ruminons, il y a de fortes probabilités que nous infecterons notre foi, que nous infecterons notre vie spirituelle et que nous allons pourrir nos jours et nos nuits. Et surtout la nuit puisqu'il s'agit du rêve. Alors au lieu d'interpeller Dieu, de lui rendre coupable, ou le diable, il l'est, le monde et les autres, je crois qu'il faut avoir le courage de le faire en premier pour soi-même et de regarder en face que souvent et encore souvent, nos rêves naissent de la multitude de nos préoccupations et ne sont que vanité. C'est la parole qui le dit. Alors, puisque nous sommes avertis, veillons à ne pas nous laisser emporter par des chimères ou encore les méandres ou dans les méandres de nos imaginations et apprendre et apprendre tout ce que ces imaginations nous comptent et nous racontent pour de l'argent comptant. Alors maintenant, on va passer brièvement aux rêves venant de Dieu. Et vous allez faire la différence. Vous allez faire la différence. Et pour cela, je lis le texte dans Job, chapitre 33. Qu'est-ce qu'il nous dit Job ? Ce que vous savez, hein, parce qu'on a souvent pris ce passage. Job, chapitre 33, versets 14 à 16. Alors, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Voilà. Et puis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et là c'est aussi intéressant et bien connu, Actes chapitre 2, verset 14. Ça c'est la Pentecôte qui approche, mais pour nous la Pentecôte c'est tous les jours. Alors Pierre se présentant avec, verset 14, alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours. » C'est nous, hein ? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, hein, parce que là, on va remettre les choses dans le bon sens, me semble-t-il. On se souvient, tout à l'heure, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont endormis et lorsqu'ils sont livrés à un profond sommeil. C'est ce que nous disait, eh bien, Job. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Dieu est souverain. Vous êtes d'accord ? On le dit, hein ? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est souverain sur toute chose. Alors, il est souverain, d'autant plus quand il choisit la manière de s'adresser aux hommes. C'est pas à moi de lui dire, Seigneur, j'aimerais bien que tu me parles de cette manière parce que j'entends mieux de cette oreille. Je vois mieux de cet œil. Je ressens mieux avec telle ou telle sensibilité qui m'appartient à moi. Mais non. Dieu choisit comme il veut. On apprend que parmi d'autres formes d'expression ou de communication, Dieu utilise des songes et des visions nocturnes. Moi, je crois à l'authenticité du rêve divin, du songe et des visions nocturnes. On en a peut-être fait l'heureuse expérience. Mais attention, il faut dire aussi certaines choses. Le rêve surnaturel. Cela signifie que Dieu agit librement, il agit également diversement et que les hommes n'ont nullement à envier ou à rechercher même la façon dont ils entendent que Dieu leur parle. Dieu parle comme il veut. Et il y a une chose, en tous les cas, auquel nous sommes soumis, une chose commune qui est propre à tous les croyants, quel qu'ils soient sous toute latitude, c'est que Dieu nous parle par sa parole. Alors ça, rien à faire, hein ? On est d'accord. Que quand on pense que la parole n'est pas appropriée, alors à ce moment-là, on est complètement en dehors. Hein. Et heureusement que Dieu nous a parlé et que Dieu nous laisse sa parole. L'Évangile. Inversement, quand Dieu use du son surnaturel, notre texte révèle que les hommes n'y prennent pas garde. On l'a lu dans Job. probablement par négligence, par indifférence, certainement par manque de sagacité ou de perspicacité spirituelle. Parce que c'est ça le paradoxe. Et qu'il y a des gens qui se disent supra-spirituels, et quand c'est vraiment spirituel, ils passent à côté. Et quand c'est un pseudo-spirituel, ils disent « c'est Dieu qui m'a parlé ». Alors là, il y a un problème. C'est avec ce à quoi nous sommes confrontés de temps en temps. Alors il faut que vraiment les choses restent comme le Seigneur le veut. Comme précédemment, ce phénomène a pour terrain de prédilection le sommeil, on l'a vu. Lorsque l'homme est plongé dans l'inconscience, et le but de ces manifestations sont clairement avoués, c'est des avertissements, on l'a lu dans Job. Il avertit l'homme quand il est sur sa couche. Des avertissements, des instructions, c'est le mot qui est pris, et puis parfois la préservation pour que, eh bien, cela peut nous garantir, eh bien, de dangers et de périls. Vous savez, il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Dieu peut parler aussi par des choses, et combien nous avons entendu d'excellents témoignages, de magnifiques témoignages, où des gens sont venus nous dire, mais effectivement, il y a eu ceci, il y a eu cela avant, et c'est vrai que j'ai failli mourir, mais les choses étaient pas forcément la personne concernée, ça pouvait être quelqu'un qui a prié pour qu'il puisse avoir une préservation. C'est formidable, hein, l'Église. C'est formidable, la vie de l'Esprit. C'est extraordinaire. L'objet de cet enseignement est qu'une fois instruits, les enfants de Dieu, les chrétiens et l'Église d'aujourd'hui croient encore que Dieu parle par ses moyens et prennent garde, sans mettre en doute, sans mépriser ou encore moins ridiculiser le sérieux des songes et des visions nocturnes. Ça fait partie des dons spirituels, des dons de l'Esprit, les dons de révélation. On en parlera dans la troisième partie. Vous verrez que le songe et le rêve fonctionnent avec et reposant sur les dons de révélation. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la Pentecôte. Hein. C'est les charismes. Et les charismes, il n'y a rien de plus beau. C'est un véritable trésor quand ils sont exercés dans l'humilité, dans la foi et dans l'équilibre. Et Dieu les a donnés comme cela. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement que Paul nous en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Alors, on se demande que quelquefois, certains chrétiens ou certains pasteurs n'ont jamais lu ces chapitres-là. Parce que tout doit servir à l'édification et pas à la démolition. Et voilà, comment savoir et comment reconnaître l'authentique de la contrefaçon. Commençons brièvement par la crédibilité des manifestations spirituelles. Selon la Bible, dans tous les cas authentiques de rêves surnaturels, et nous passerons au crible des histoires la prochaine fois, des histoires bibliques, donc, dans tous les cas authentiques de rêves surnaturels, Dieu les accompagne d'une interprétation sans équivoque, c'est-à-dire c'est clair. C'est comme les parler en langue, ou c'est comme une prophétie. Si une prophétie est donnée, et qu'elle n'est pas claire, qu'elle est donnée en image, alors ça ne sert à rien. Parce que s'il faut redécoder encore ce qui était déjà normalement décodable, alors on n'en finit pas. Hein. Non, Dieu parle clair. Il veut nous faire comprendre avec des mots simples, accessibles à notre compréhension. Donc, l'interprétation est sans équivoque. Le sujet qui en est l'objet n'a pas à spéculer ou à échafauder des combinaisons ambiguës pour en saisir le sens. Seigneur, j'ai fait un rêve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pour se perdre encore dans les méandres de notre imagination, c'est pas la peine. Si Dieu parle ainsi, il fera en sorte que de nous interpeller pour que ce qu'il a à nous dire ne reste pas mystérieux. Ben oui, parce qu'autrement, on batifole dans tous les labyrinthes hein, de la complexité. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Non, il y a des choses qui sont claires. Hein. Regardez dans sa parole, Dieu est clair. Hein. Même quand il parle en parabole, il donne encore l'explication des paraboles. Alors, c'est pas... Le monde divin et le monde céleste, le monde de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'autre monde des ténèbres, où tout est mystère, tout est occulte, tout est, crypto, c'est-à-dire caché. Mais avec Dieu, c'est clair. Alors, on ne faut pas se livrer à toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Autrement, de quelle utilité serait son intention s'il n'était pas compris? Dieu nous parle, nous interpelle d'une manière ou d'une autre. Mais pour qu'il soit compris, c'est logique. Encore une fois, la compréhension de ce type de rêve peut être immédiate, indirecte, différée, confirmés par des faits, des circonstances, des événements, entrevus par l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous conduit à ce moment-là. Et il y a bien souvent des éléments qui nous disent, qui nous montrent, même avant, que nous avons au fond de notre cœur, sans avoir pu les, peut-être les comprendre, mais qui deviennent réalité, qui deviennent révélation à ce moment-là. Ou alors des faits qui viendront après, en disant, mais maintenant j'ai compris pourquoi Dieu m'a parlé. Et pourquoi Dieu a utilisé ce moyen. Le problème qui se pose est de savoir attendre. Ah, l'impatience spirituelle, hein. De savoir attendre, souvent en silence. De savoir attendre, de garder en mémoire ce que nous avons reçu. Regardez Marie, elle avait gardé ça dans son cœur pendant 30 ans, hein, ce qu'elle est arrivée par rapport à Jésus. Vous connaissez le texte, hein, dans Luc. Observer, prier, mais toujours avec prudence et surtout beaucoup de discrétion. Vous savez, je vais le dire quand même, mais moi, ça me fait toujours frissonner pour l'avenir spirituel des gens qui disent, moi, vous savez, qui se font appeler prophètes dans une église, qui viennent avec leur carte de visite et leur état de service, qui se disent, moi, toutes les nuits, j'ai des rêves. Alors, si vous avez tendance, vous n'allez pas venir me voir maintenant, hein, je l'ai dit. Vous savez, moi, j'ai des songes, j'ai ceci et cela. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que là, vous êtes en train de nourrir votre propre orgueil spirituel. Et l'orgueil spirituel, c'est le pire de tous, et vous allez vous détruire avec ça. Et il y en a un autre qui va vous ramasser, au moment où vous n'y pensez pas. Combien on a eu dans d'autres situations, dans tous ces mouvements parallèles, des gens qui ne marchent qu'avec des choses extraordinaires. Et, écoutez, on est sur Terre encore, hein. On n'a pas besoin de mettre de plomb dans nos chaussures. Mais quand même, on est sur Terre. Moi, ce que j'admire dans la personne de Jésus, c'est son équilibre parfait. Et une église, pour qu'elle fonctionne, elle doit fonctionner dans l'équilibre, ni d'un côté, ni d'un autre. Parce que tôt ou tard, on se fait rafler. Pas par le Seigneur, hein. Il y en a toujours un qui nous attend. Alors, je crois que tout cela, c'est important que nous puissions, finalement, la discrétion. L'humilité, Jésus nous le dit, je suis doux et humble de cœur. Alors, à combien plus forte raison devons-nous l'imiter ? Combien de véritables interventions de Dieu, par le truchement de songes et de visions, ont été galvaudées, si vous comprenez le terme, rendues caduques, alors qu'il y avait peut-être quelque chose de bien, mais elles ont été cassées par l'intrusion de la chair de l'humain, par un manque de sagesse ou une excitation charnelle. C'est ce qui est dit dans le texte. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Et dans Jérémie, c'est ce que nous avons lu. Et est-ce que ce n'est pas pour cela que Dieu se manifeste si peu au milieu de nous, par des dons de puissance et des dons de révélation ? Est-ce que ce n'est pas pour cela ? Vous savez qu'un jour, quand les disciples ont été envoyés, 70 ont été envoyés vers le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vous ressusciterez les morts. Et ils l'ont fait, hein ? Et ça marchait ! Et quand ils sont revenus vers Jésus, il leur a dit, venez un petit peu à l'écart, j'ai quelque chose à vous dire. Ils étaient revenus d'une excitation, il leur a dit, écoutez, hein, réjouissez-vous non pas de ce que les démons sont chassés, de ce que ceci et cela, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les livres des cieux. Et ça, c'est le principal. C'est pas le miracle, et bien que Dieu soit béni pour le miracle, mais le miracle, il rend orgueilleux, il rend fou, il excite. Et on en fait, après, toutes sortes de choses. Parce que c'est ça le contenant. Nous, nous sommes que des vases, et des vases de terre. Si nous étions des vases précieux, ben, on pourrait comprendre qu'on pourrait tenir tout ça. Mais on est dans un corps, on est dans un monde, et finalement, Dieu le donne au compte-goutte. C'est dommage, hein. C'est dommage. Et ça, c'est par un manque d'humilité. Quoi qu'il en soit, l'Écriture sainte offre une grande sobriété concernant le rêve d'inspiration divine. Il y en a, on le verra la prochaine fois. Parmi les exemples bibliques les plus remarquables, le rêve surnaturel reste un phénomène occasionnel. Je dis bien occasionnel. Pas tous les jours, pas toutes les heures, pas toutes les minutes. Peut-être dans le monde entier, mais pas pour la même personne en tous les cas. La règle de marche chrétienne, c'est toujours la foi. C'est pas la vue. C'est pas les sens, c'est pas la sensibilité, voire même la sensiblerie religieuse. Donc, c'est toujours la foi, c'est-à-dire croire sans voir, mieux encore, croire sans savoir. Abraham a été appelé le père des croyants parce que Dieu, quand Dieu lui a dit « quitte ton pays » et ceci et cela, il lui a dit qu'il partit sans savoir où il allait. Et le pas qu'il a fait engendrait le second, et le second, le deuxième, le troisième, etc. Et il a marché instant après instant par la foi. Et nous, nous devons marcher par la foi. Que Dieu nous fasse la grâce d'avoir des révélations de temps à autre. Mais merci Seigneur. Parce que dans les grands événements de notre vie, je peux vous dire que Dieu a marqué avec les dons spirituels. Moi, on l'a vécu avec mon épouse. D'une manière extraordinaire et formidable. Mais c'est pas pour ça que on est conduit tous les jours de cette manière. Et on marche par la foi. On dit Seigneur, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Ben moi je ne sais pas, mais toi tu le sais, je rentre, je me mets à disposition et fais de moi ce que tu voudras Seigneur. Parce que si je savais de tout de A à Z, hein, je connais le A mais je ne connais pas le B encore. Alors je ne suis pas rendu au Z. Hein. Voilà, c'est la marche par la foi dont nous avons besoin. Et si dans les cas où Dieu choisit de nous révéler la connaissance de quelque chose, ce n'est pas pour que nous sombrions dans la passivité spirituelle en disant maintenant, j'ai plus besoin de lire la parole, j'ai plus besoin de venir à l'église, j'ai plus besoin de venir aux réunions d'évangélisation, aux réunions de prière. Moi, il n'y a qu'une chose qui compte. À ce moment-là, je deviens un mystique et de faire de mon lit, excusez-moi, puisque c'est une question de nuit, hein. En principe, la nuit, on est au lit. C'est de faire de mon lit une nouvelle tente d'assignation. Et je me frotte les mains à 8 heures et je me dis, je suis allé me coucher, le Seigneur va me parler. Bon. Faut pas que les voisins mettent trop fort la musique, hein, parce qu'autrement, j'entends plus rien. Et une nouvelle tente d'assignation où chaque nuit, nous donnons, c'est pas Dieu, hein, nous donnons rendez-vous au Seigneur pour qu'il nous parle surnaturellement. C'est fou. Excusez-moi, faut remettre les choses en place. Vous allez dire que je suis logique, hein, que je suis très rationaliste. Non, non, non. Je crois que il faut avoir cette sensibilité, cette perspicacité des choses de l'esprit, mais encore une fois de plus, il faut être réaliste. L'Église est malade de ses excès. On est d'accord? Non. Elle est malade de ses excès, le monde est malade de ses excès, et l'Église est malade de même que le monde de ses excès. Agir, croire, prier, jeûner sous l'inspiration et en trouvant le prétexte pour tout ça des rêves, c'est faux. C'est faux. Qui plus est, au quotidien. Parce que la vie continue. Alors, rareté des rêves surnaturels, ceci explique cela. Dieu ne veut pas que nous soyons des mystiques. Il veut que nous soyons en prise directe avec notre temps, notre génération et notre société. Parce que si vous voulez rendre témoignage, si nous sommes de doux heureux, les gens vont dire, ah ben c'est ça être chrétien. Oh, ils sont bien mignons, ils sont formidables, ils sont bien beaux, ils sont bien gentils, mais ils attendent d'autres choses. Vous savez que Jésus avait en lui-même à la fois la tendresse du cœur et la fermeté d'esprit. Et nous sommes appelés à avoir la tendresse du cœur et la fermeté d'esprit. Ajoutons sur la question que les critères de reconnaissance d'un songe ou d'un rêve venant de Dieu et qu'il porte l'empreinte de son inspirateur. Et l'inspirateur du songe ou du rêve surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Alors là, nous allons découvrir que le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est la puissance. C'est vrai, c'est la révélation. C'est l'autorité, c'est tout ce que vous voudrez. Mais le Saint-Esprit, c'est la sagesse. C'est la pureté. C'est la vérité. C'est la justice. Et l'inspirateur, qu'est le Saint-Esprit, il est toujours moral. Et dont le but est d'enseigner, d'éclairer et d'avertir. Et vous ajoutez à cela les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Et puis tout le reste, il y en a 9 comme ça, dans Galates, chapitre 20, verset 24. Voilà. Donc on ne peut pas prendre un texte, le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Alors, une dernière chose avant que je termine. Quelle différence entre le songe et la vision? Peut-être que vous vous êtes posé la question. Je me la suis posée. Le songe se manifeste durant le sommeil. La vision à l'état de conscience et pour cette dernière, avec ou sans extase. L'état extatique. Alors attention, hein, peut être dangereux là. Enfin, c'est dangereux, si on veut. Extase, du latin, ext, hors de, stare, se tenir hors de. Qui est un état surnaturel où l'individu se sent comme transporté hors de lui-même, hors du temps, hors de son environnement. Voilà l'explication de l'extase. Toutefois, songes et visions sont porteurs, sont les moyens d'expression, de transmission, la manifestation des dons spirituels dits de révélation. Et la révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Vous connaissez votre Bible. Voilà, véhicule. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Et cadré, bien calé dans la parole de Dieu, après il n'y a plus d'ambiguïté, hein. Enfin, pour ceux qui le veulent, il n'y a plus d'ambiguïté en tous les cas. Si le rêve psychique est le produit de nos préoccupations et agitations, c'est ce que nous avons dit la fois précédente et encore aujourd'hui, de l'âme, le rêve surnaturel est le porteur des dons du Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Vous les relirez. Les dons vocaux, les dons de puissance et les dons de révélation. Je ne vais pas vous les citer, mais ils sont là. Principalement donc la parole de sagesse, de connaissance, et dans un moindre, peut-être moindre proportion, le discernement des esprits. Alors la prochaine fois, on verra le fonctionnement. Sur quoi s'appuient les songes, les rêves et les visions surnaturelles venant de Dieu. Et vous verrez que c'est cohérent. Et vous savez le grand malheur de nos églises, c'est qu'on veut bien de l'émotion. On veut bien du psychisme, ce qu'on appelle de la spiritualité, mais qui n'est pas de la spiritualité. Mais vous savez ce qu'on oublie? On oublie le regard à porter sur l'enseignement de la parole de Dieu qui, elle, va cadrer tout cela et va nous remettre véritablement dans les voies, dans les bonnes voies de Dieu. Parce que si vous enlevez la parole de Dieu, vous faites n'importe quoi. Et il y a toutes sortes de mouvements qui sont apparus depuis quelques décennies, où les gens, ou les chrétiens, ou les églises, même les pasteurs, parce que ça commence par les pasteurs, font et disent n'importe quoi, en faisant, excusez-moi, entre guillemets, avaler du pseudo-spirituel, en prétendant que c'est du spirituel qui vient du Seigneur. Et c'est très grave. Enfin, moi, pour moi, c'est grave parce que c'est un détournement, hein. Et si je m'en tiens à ce que Jésus a dit, dans les signes précurseurs de son retour, il dira, lorsque je reviendrai, il y aura ceci, cela, etc. On est en train de voir actuellement se dérouler un petit peu en surface ou sous la terre toutes sortes de manifestations et de convulsions de notre planète. Mais il dira, entre autres, avant toute chose, gardez-vous d'être séduit. Alors que le Seigneur nous aide. Remettons notre vie, nos consciences, nos esprits, nos âmes, entre nos cœurs, entre les mains du Seigneur, en disant, Seigneur, enseigne-moi ta vérité. Garde-moi dans ta vérité. Donne-moi l'esprit de vérité. Et surtout, Seigneur, donne-moi d'aimer ta vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole nous enseigne. Ta parole est là pour nous rappeler ce que tu as dit à tes disciples. En effet, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur et rappelez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Alors nous croyons, Père éternel, que c'est notre travail, c'est notre rôle. Alors merci, Seigneur, parce que nous vivons dans un monde, Seigneur, où il y a tellement de débauches en tout genre, de débauches, Seigneur, dans la pensée des hommes, de débauches dans le sentiment des hommes, dans, en effet, Père éternel, le comportement des hommes. Alors nous croyons, Seigneur, que, en effet, l'Église peut être une proie facile si nous perdons de vue que Jésus est venu, qu'il nous a parlé, qu'il nous a laissé, eh bien là, une parole vraie, une parole de grâce, une parole de vie, une parole de l'Esprit. Alors, Seigneur, si véritablement nous ne gardons pas ça au fond de notre cœur, nous pouvons être livrés, Seigneur, dans un monde, Seigneur, où tous les vents soufflent de tous les côtés. Oui, Seigneur, où toute cette terre, le monde des hommes, se transforme en un tourbillon gigantesque et de confusion. Alors, Seigneur, garde-nous en toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Moi, je te le demande pour l'Église. Garde-nous en toi, Seigneur. Garde mes frères et mes sœurs. Amène-les, Seigneur, à garder l'équilibre, à tenir, Père éternel, la route que tu leur as tracée. Et, Seigneur, en tous les cas, une chose qui est certaine, je te bénis, je te remercie pour les songes et les rêves et toutes ces révélations surnaturelles. Mais je te remercie, Seigneur, quand tu me parles, mais je te remercie quand tu ne me parles pas. Parce que, Seigneur, quoi qu'il en soit, j'ai ta parole. Et puis je veux vivre, Seigneur, avec ta parole serrée sur mon cœur. Et te pouvoir vérifier, comme les Béréens, que tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être dit, soit vérifié, Seigneur, comme ces hommes de, en effet, d'il y a si longtemps, vérifier, Seigneur, et s'appliquer à examiner les Écritures. Alors nous voulons te remercier et te bénir dans le nom de Jésus. Alors merci, Seigneur, pour les dons, les charismes. Mais merci, Seigneur, parce que ces charismes, ils sont bons, ils sont délicieux, ils sont suaves, dans la mesure où ils glorifient ton nom, et non pas l'homme. Merci, Seigneur. Amen. Amen.